Comment comprendre l'épître aux Colossiens? Donc une épître, c'est une lettre. Une lettre qui est écrite par un apôtre à une église ou à une personne, mais toujours dans un but, un ou plusieurs buts. Le but d'encourager, notamment dans des temps de persécution, il est important d'encourager. Le but d'avertir d'un danger. Et nous allons voir que c'est le cas de l'épître aux Colossiens. Notamment quand une erreur peut venir compromettre la pureté de l'évangile. Et que certains commencent à enseigner, à répandre cette erreur ou ces erreurs et à produire le doute dans le cœur des fidèles. Ça sert aussi donc à corriger cette erreur, à préciser un point, et puis aussi à corriger parfois des comportements. On voit ça beaucoup dans l'épître aux Corinthiens. Alors, ce que je vous propose de faire avec l'épître aux Colossiens, c'est d'essayer de la comprendre, de voir pourquoi elle est écrite. Alors, il faudrait évidemment commencer par la lire, mais on ne va pas pouvoir la lire tout aujourd'hui. Alors, on va un peu la survoler. Et quand on la survole, on se rend compte très vite que c'est une épître qui était en deux parties, avec les deux premiers chapitres et les deux derniers chapitres. Les deux premiers, bon, il y a d'abord une introduction avec une salutation, des prises de contact. Et ensuite, les deux premiers chapitres sont plutôt des chapitres de théologie, de théorie. On est dans le domaine des idées, de ce qu'il faut comprendre. Et puis, il y a une phrase qui est un peu la charnière, qui est le premier verset du chapitre 3, qui dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et ce donc-là fait référence à tout ce qui a été dit avant, et puisque vous avez compris ce que je vous ai dit, voilà comment vous devez vous comporter. » Donc, les deux derniers chapitres s'adressent plutôt à du comportement. Et à la fin du chapitre 4, on trouve des salutations individuelles qui s'adressent à des personnes en particulier. Alors aujourd'hui, nous ne verrons que la première partie. Et en fait, ça tombe bien puisque Pierre-Yves nous a parlé de la deuxième partie il n'y a pas longtemps. Souvenez-vous, c'était une prédication intitulée « Supportons-nous les uns les autres ». On fait un peu les choses à l'envers, mais ça ne fait rien. Et là encore, cette première partie, on devrait commencer par la lire. Alors, la voilà, vu comme ça, c'est peut-être un peu confus. Alors, cette lecture, je vous engage à la faire tranquillement chez vous, pour vérifier si ce que je vous dis est la vérité. Ce qu'on va faire ce matin, c'est ce que Claude-Henri Gobat nous a déconseillé de faire il y a 15 jours ou 3 semaines. Il nous a dit « Faites attention aux morceaux choisis. » Hein, il était parti d'un psaume et il nous avait dit « Attention, si vous lisez que deux versets dans ce psaume, vous risquez d'avoir une idée un peu fausse de ce que le psaume nous dit. » Alors, on va les lire, ces deux chapitres, mais on va le lire en regroupant par thème. Voilà, vu comme ça, c'est plus clair, hein. On va tout lire, mais par couleur. Alors, je vous ai mis sur cette diapo, mais on va faire quelque chose d'un peu plus visible tout à l'heure, en bleu, ce que l'apôtre connaît de cette église de Colosse, des Colossiens, cette église qu'il n'a probablement jamais visitée directement. Il semble que cette église de Colosse, elle ait été construite, édifiée d'après le témoignage d'Épaphras. Épaphras lui-même s'étant converti à Éphèse et ayant été ensuite à Colosse et ayant évangélisé la ville de Colosse. Alors j'ai mis en bleu ce qu'il connaît et puis ce qu'il souhaite très généralement pour cette église des Colossiens. Et puis j'ai mis en rouge les problèmes, ce qu'il sait des problèmes que les Colossiens rencontrent, et puis en vert, les solutions qu'il va donner à ce problème. Voilà, donc comment, voilà notre marche, comment allons-nous comprendre le but de Paul dans cette épître? En essayant de repérer les textes qui seront en rouge et les réponses que Paul apporte qui seront en vert. Mais avant cela, on va lire les salutations et la façon dont Paul parle des Colossiens. Donc je vous invite à le lire, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre, sinon le texte est là. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, en fait on dit toujours Paul écrit, mais en fait ils étaient deux à écrire, hein. Il y avait Timothée comme écrivain. Et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Vous remarquerez que j'ai souligné certains termes. On en parlera tout à l'heure, notamment quand il est question de la connaissance. Vous a précédemment fait connaître. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Vous voyez, quelque chose d'assez élogieux quand même. Hein ? Verset 9, c'est pourquoi aussi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pour l'instant, pas trace d'un problème. Simplement, Paul exprime ce qu'il connaît de cette épître, de cette église de Colosse, et puis il fait des vœux, des prières pour eux, et demande à ce qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté, qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur, qu'ils portent du fruit, qu'ils soient persévérants et patients, et qu'ils rendent grâce, qu'ils remercient le Père. Mais voilà les problèmes qui arrivent. Les problèmes auxquels sont confrontés les Colossiens. Donc ils sont un peu dispersés dans ces deux chapitres, et je vous les ai concentrés ici. Il est question, verset 23, de « pour vous faire paraître devant lui saint et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. » Si vous demeurez dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. On voit par ce si vraiment, que Paul introduit un petit doute en disant « attention, il y a peut-être un petit problème là où vous risquez de dévier par rapport à l'évangile que vous avez entendu. » Un petit peu plus loin, chapitre 2, verset 4, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Donc, ils étaient en danger d'être trompés. Ces Colossiens. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, ça se précise, ou par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde. Et puis un peu plus loin, verset 16, « Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, tiens, ça c'est nouveau, d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Et le dernier passage, à la fin du chapitre 2, « Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes choses qui sont vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes ou d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité, rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et qui contribuent à la satisfaction de la chair. » Alors, on va essayer de classer et de comprendre un peu tout cela. À quoi est-ce que les Colossiens sont exposés ? Donc, les Colossiens, c'était des gens qui avaient accepté l'Évangile, tel que Épaphras, probablement, le leur avait transmis, mais qui étaient exposés au discours de gens qui voulaient compléter ou corriger l'Évangile par leur propre vision du monde. Alors certains commentateurs ont pensé que les Colossiens avaient en face d'eux une philosophie bien organisée qui regroupe toutes ces tendances. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont en face d'eux plusieurs groupes qui partent un peu dans toutes les directions et que ces Colossiens qui donc avaient accepté l'Évangile, mais c'était fragile l'Évangile à cette époque. Il n'y avait rien d'écrit. Enfin, c'était en train de s'écrire les Évangiles, justement, et les Épîtres. Tout cela était en cours de rédaction. Donc, c'était un peu difficile de savoir exactement où étaient les bornes de la vérité sur des paroles, simplement, qui avaient été véhiculées. Donc, dans beaucoup d'épîtres de Paul, on trouve ce phénomène où des gens trouvent que l'Évangile, c'est trop simple. On va en rajouter. Lisez l'épître aux Galates, par exemple. Eh bien, pour les Colossiens, voilà un petit peu les gens qui voulaient les troubler. Il y a très probablement des Juifs. Pourquoi des Juifs ? Parce qu'il est question d'être troublé dans ce que vous mangez. Donc, il y avait des règles alimentaires. Il est question aussi de sabbat, dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce sont des gens qui voulaient certainement dire aux Colossiens, comme d'ailleurs c'est le problème que rencontraient les Galates, dire, attendez, d'accord, vous êtes disciple d'un juif Jésus, mais alors il faut que vous deveniez juif. Il faut vous faire circoncire, il faut respecter le sabbat, il ne faut pas manger certaines viandes. Voilà. Et ça pouvait les troubler. Et puis, on trouve des gens qui en appellent aux traditions, les traditions des hommes, on l'a lu tout à l'heure. Ou alors à une discipline corporelle comme moyen de salut. Donc, les traditions, ceux qui appellent aux traditions, ce sont les légalistes. Et ceux qui veulent qu'une discipline corporelle règne, ce sont les ascètes, les disciples de l'ascétisme. Alors, j'ai marqué en noir ce qui pourrait aujourd'hui, pas que les Colossiens au 1er siècle, mais aujourd'hui encore, nous poser problème à nous. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on peut rencontrer dans l'Église des légalistes, des gens qui vont vous dire, attendez, hein, bon, vous allez au culte, mais il faut mettre une cravate. Parce que si vous mettez une cravate, si vous ne mettez pas de cravate, vous n'avez vraiment pas le respect pour le Seigneur. Comment voulez-vous dire que vous respectez le Seigneur alors que vous n'êtes pas très bien habillé ? Ça existe. Vous avez aussi des courants de la chrétienté qui se complaisent dans des restrictions alimentaires ou des restrictions dans la façon de vivre et qui pensent que c'est la seule façon d'adorer le Seigneur et qui veulent l'imposer aux autres. Alors, qu'est-ce qui se passe encore pour ces Colossiens? Ils sont aussi, ben les Colosses, c'est en Grèce. Hein. Actuellement, ça serait en Turquie, mais à l'époque, c'était la Grèce. Hein. Et c'est le pays des philosophes. Les philosophes qui prônent la sagesse, la connaissance. Connaissance, en Grèce, en grec, ça se dit gnosis. Hein. Et on trouve dès cette époque des courants de pensée qu'on va appeler prégnostiques, qui donneront ensuite le gnosticisme. Et on trouve aussi ce qu'on appelle les religions à mystère. C'est des religions dans lesquelles il faut subir des initiations successives. Chaque fois, on est initié à un mystère supplémentaire. Et on trouve ça encore à notre époque. Le gnosticisme, ça existe toujours. Il y a par exemple les Rose-Croix, qui sont des gnostiques, qui sont aussi des gens qui font des initiations successives. Et qui vont vous dire, oui, bon, d'accord, Jésus, on comprend bien, mais enfin, il faut penser aussi, intégrer aussi beaucoup de choses de la pensée orientale, de la pensée égyptienne, et qui font un mixage de tout ça. Et puis, il y a les francs-maçons. Les francs-maçons, ils ont évacué Dieu, mais ils ont gardé les initiations successives. Et la dévotion, on peut dire, à la sagesse. Et nos Colossiens étaient donc aussi soumis à ça. Et puis, ils rencontraient aussi des polythéistes, des gens qui croyaient en plusieurs dieux et qui étaient tout à fait d'accord pour en intégrer un de plus. Jésus-Christ, pourquoi pas? Ça ne fera qu'un de plus dans leur panthéon. Et puis, on pourra adorer comme on adore d'autres, et notamment le culte des anges. Donc Jésus n'est qu'un de plus parmi tant d'autres. On trouve aussi des gens qui doutent de la pleine divinité de Jésus. Oui, bon, Jésus c'est certainement quelqu'un d'important, mais de là à dire qu'il est Dieu. Et cela va donner dans la chrétienté tout un courant qui a pris le nom d'un moine qui vivra plus tard. Mais déjà, à cette époque-là, on voit des débuts de cette idée que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Et ce moine qui s'appelait Arius a donné l'arianisme qui a été, il faut le dire, au 3e, 4e siècle, un courant très important de l'Église et qui est encore représenté de nos jours par les témoins de Jéhovah. Et puis, certainement, comme ça part un peu dans tous les sens, il y avait des gens qui essayaient de faire un mixage de tout ça en prenant ce qui leur plaît un peu à droite, à gauche, ce qu'on retrouve à notre époque avec le Nouvel Âge. Quand je vous disais que c'est pas mort, que c'est toujours actuel, les flagellants des Philippines, vous pensez que c'est une façon dont Dieu nous demande de l'adorer, de se flageller, de se faire crucifier? Vous avez ici un symbole des francs-maçons qui ont quand même gardé, vous voyez, une référence au divin avec l'œil dans le triangle. Mais évidemment, la sagesse humaine est mise en avant avec l'équerre et le compas. Alors, la photo est un peu petite. Ça, c'est un temple de Rose-Croix. Alors, il y a une croix, il y en a même deux. Mais si vous regardez ici, vous avez des bas-reliefs qui ressemblent tout à fait aux bas-reliefs égyptiens. Hein. Un peu plus loin, enfin, il aurait fallu que je mette la photo plus grande. Mais... Donc, un mélange. Congrès international des témoins de Jéhovah. Donc, l'avatar moderne de l'arianisme. Et ici, vous avez quelque chose qui fait référence à la sagesse, à la philosophie des hommes, avec notamment ces jeux de mots. Alors, ce qui est important, c'est de voir les réponses que Paul apporte. parce que les problèmes, on en a assez finalement nous-mêmes. Si on n'a pas de solution, ça ne va pas aller. Eh bien, on va les lire. Je suis désolé, ça va être un petit peu long, mais à mon avis, c'est important. Parce que tout ce que je vous dis, c'est quand même mieux si c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, on va lire ensemble. Donc, chapitre 1, verset 13, il est question du Père qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Un peu plus loin, j'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. C'est quoi ce mystère ? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence et de la connaissance, pour connaître le mystère de Dieu, Christ en qui sont cachés tous les trésors de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez fondés, enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous a été données et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Quel titre tu avais trouvé, Geneviève ?
Le Christ.
Voilà, le Christ et rien d'autre. Finalement, vous avez, j'ai lu un peu vite, je suis désolé, mais vous pouvez reprendre ça chez vous. Vous verrez quelle est la réponse que Paul apporte. Christ, Christ et encore Christ. Vous vous posez des questions ? La réponse, c'est Christ. Christ et rien d'autre, avait trouvé Geneviève lors de notre groupe de maison. Les réponses que Paul donne face aux judaïsants, à ceux qui veulent retourner au judaïsme, Mais Christ a effacé la condamnation. Ne nous parlez plus de la loi. Christ a effacé la condamnation. Il l'a clouée sur la croix, dit Paul. Et puis, ne nous parlez pas de la circoncision. La vraie circoncision, c'est celle de Christ. Ce n'est pas celle qui est faite de la main des hommes. C'est celle qui concerne le cœur. Face aux légalistes, aux ascètes, Christ a apporté le pardon des péchés, la pleine réconciliation, sans que nous ayons à intervenir par notre comportement d'une façon ou d'une autre. C'est Christ qui l'a fait. Face aux philosophes, à ceux qui prônent la connaissance, Christ apporte la surconnaissance de Dieu. Vous avez pu voir au fil de ma lecture le nombre de passages, le nombre de phrases où il est question de la connaissance. Je les ai soulignées. Eh bien, Paul utilise les mots des gens qui ne pensent pas comme lui. On parle de connaissance. Paul va utiliser ces mots-là pour dire aux Colossiens la vraie connaissance, c'est celle de Christ. Et pour être bien sûr d'être compris, il va forger un mot. Connaissance asignosis. Et lui, il va forger un mot qui est épignosis. Et quand vous lisez le texte en grec, on ne peut pas le voir dans nos traductions, malheureusement, il ne parle pas de la connaissance, mais il parle de la surconnaissance, épignosis. Et ceci, c'est pour montrer que même si les hommes parlent de connaissance, la vraie connaissance, elle est en Christ. Face aux polythéistes, on voit que Paul enfonce le clou, plusieurs fois il y revient. Christ est le seul qui est à la fois Dieu. Il est question de... En lui réside toute la plénitude de la divinité. Il est à la fois Dieu et image de Dieu. Et il est aussi le créateur de tout. Des mots qui pour nous ne veulent rien dire, mais pour les gens de l'époque avaient une signification. Les principautés, les pouvoirs, les autorités, c'était le vocabulaire des polythéistes, c'était ceux qui trouvaient dans le ciel différents degrés de divinité. Alors Paul dit, mais Christ est le créateur de tout. Toutes les autres réalités sont des créatures. Il est donc le seul que l'on doit adorer. Et face aux religions et mystères, là encore Paul reprend le mot. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, il reprend le mot mystère. Et il leur dit, mais quel est le seul, l'unique mystère, celui qui n'était pas connu et que l'on connaît maintenant parce que Dieu l'a révélé, c'est le mystère qui est dévoilé, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Face aux Ariens, à ceux qui pensent que Christ n'est pas vraiment Dieu, là aussi Paul martèle, en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais comment est-ce que Paul aurait pu dire les choses plus clairement? Quel mot est-ce qu'il aurait pu employer pour dire que Christ était vraiment Dieu quand il dit « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Et puis, face à ceux qui prennent un petit peu différents éléments, Paul va encore dire « Christ et seulement Christ ». Conclusion de cette première partie de l'Épître, face aux différentes tentations de rajouter des choses, de compliquer les choses, Paul répond « Christ et seulement Christ ». Et conclusion pour nous, puisque c'est important de savoir, c'est un avertissement que cet Épître aux Colossiens, qui nous dit « Attention ». Tout ce qui s'ajoute à l'Évangile dénature l'Évangile. Il y a dans le midi de la France une communauté de chrétiens qui nous ressemble, qui veut être droite et parfaite et devant le Seigneur. Il y a juste une petite chose qu'ils ont rajoutée, je ne sais d'ailleurs pas trop pourquoi, une insistance sur le fait que quelqu'un qui se donne au Seigneur doit demander à ce que soient pardonnés les péchés de ses ancêtres. C'est curieux. On se dit, après tout, ça ne mange pas de pain. Mais bon, c'est un peu curieux comme idée. Sauf qu'au fil des années, ce pardon du péché des ancêtres, finalement, a pris une très grande place par rapport à la proclamation de l'Évangile. Et là, il y a un danger. On rajoute une petite chose, et cette petite chose risque de dénaturer la pureté de l'Évangile. De la même façon, toute importance qu'on donne à une autre personne qu'à Jésus va éloigner de l'Évangile. À partir du moment où vous dites, bon, d'accord, Jésus, c'est important, mais il ne faut pas non plus oublier les grands hommes de l'histoire de l'Église. Alors on va les appeler saint machin. Attention, on ne donne pas à ces hommes sans prendre à Jésus. Et puis, dernier point pour nous qui est important, c'est que si nous cherchons la sagesse, si nous cherchons la connaissance, cette sagesse et cette connaissance, les plus grandes, les plus importantes, elles sont concentrées dans la personne de Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que si vous voulez passer votre permis de conduire, il ne faut pas apprendre le code de la route, bien sûr. Hein ? Il y a aussi des sagesses et des connaissances humaines, mais il faut hiérarchiser. Et ce qui est important pour notre vie maintenant et notre vie éternelle, c'est de connaître la sagesse et la connaissance, celle de Jésus-Christ.